Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Continuons notre visite de... Nous sommes dans ce passage, la chute des anges, à l'intérieur du paragraphe du catéchisme de la chute. Et il va quand même falloir regarder, si je puis dire, d'un peu plus près, Satan et sa puissance. Dans ce paragraphe, ce chapitre de la chute des anges, disons, le catéchisme donc, aborde évidemment cette puissance de Satan. Celui, au baptême, il y a un geste d'exorcisme sur les baptisés pour enlever Satan. C'est pareil, certains sont des fois un peu gênés, il y a des parents qui sont un peu mal à l'aise avec ça. Et pourtant, personnifier ce Satan est extrêmement important pour nous situer face au mal, face à ce qu'on peut en subir. Et je vois la façon, c'est assez intéressant, la façon dont le catéchisme nous cite des manières de l'appeler, de le nommer. Le diable est pécheur dès l'origine. Là, il cite ici la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Il dit aussi, c'est le père du mensonge. Ça, c'est l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 8, verset 44, qu'il dit cela. Et un peu plus loin, on a... Toujours
du même verset,
8:44, ouais. Chez Saint Jean, l'homicide dès l'origine. C'est assez intéressant de voir comment on caractérise cette figure de Satan.
Oui, car dans le fond, c'est la mort spirituelle, c'est la mort par le fait de quitter la vérité, de quitter la vie. Jésus dit à l'inverse, comme le revers de ses paroles, je suis le chemin, la vérité et la vie. À partir du moment où vous êtes du côté du mensonge, vous perdez le reste, vous perdez et le chemin, et du coup, vous vous éloignez, vous êtes pécheur, et la vie, et du coup, vous rentrez dans ce péché d'homicide, vous êtes meurtrier. Et c'est très beau de voir qu'il y a toujours ces deux voies qui sont rapportés au Deutéronome, où le Seigneur avait averti déjà le peuple d'Israël, choisis le bien et le bonheur, et ne choisis surtout pas le mal et le malheur, parce que dans le fond, c'est ça que Dieu nous avertit sans cesse, c'est de faire ce bon choix avec lui, de rester dans la lumière, de rester sur le chemin qui va épanouir notre liberté. Beaucoup ont l'impression que s'ils se soumettent à Dieu, ils perdent leur liberté. Comme si leur liberté, c'était de faire n'importe quoi. Mais non, notre liberté, c'est dans cette soumission à Dieu, une émancipation de nos passions mauvaises pour arriver à atteindre le but qui est la communion avec Dieu. Et donc, ne pas désobéir à Dieu, bien sûr, sur ce chemin. Or, le démon a une volonté de conquérir les âmes, ne serait-ce que pour prouver à Dieu lui-même qu'il a eu raison en n'acceptant pas ses commandements, qu'il a eu bien raison contre ce plan de vouloir s'incarner dans un homme, dans une créature mi-matérielle, mi-spirituelle, et que c'est tout à fait scandaleux par rapport à ce qu'il était lui, réalité purement spirituelle. Et donc il veut avoir raison sur Dieu et entraîner par son pouvoir, qui reste un pouvoir angélique. Dieu a donné à chaque ange un pouvoir angélique qui est grand, et il essaie, au lieu de le mettre au service du bien, il continue dans cette ligne bien décrite de l'homicide, du mensonge et du péché. Et ce triple signe du démon continue son parcours en essayant d'acquérir des hommes qui se mettent non au service du bien, mais au service du mal et du démon, et pour faire un peu la nique, si j'ose dire, à Dieu, c'est-à-dire j'ai eu raison, regarde tous ceux que j'arrive à faire tomber par mes infiltrations, par mes tentations, par mes infestations, par mes possessions. Le démon peut pénétrer d'une manière plus ou moins forte chez quelqu'un selon ce que celui qui est en face de lui accepte ou pas. Donc ce qu'on appelle l'infestation, c'est lorsque le démon a une cible sur quelqu'un qui a peut-être du pouvoir ou qui a peut-être du rayonnement et qu'il essaye de faire tomber. Alors il le tente et puis il essaye de le tenter par une sorte d'oppression, puis d'obsession. Et puis finalement, si quelqu'un l'accepte, il tombe dans la possession. Et c'est là que, évidemment, la gravité de la situation spirituelle est la plus douloureuse pour celui qui est possédé, c'est qu'il ne pourra plus s'en libérer de lui-même. Il va falloir un acte profond de l'Église dans sa communion qui va, par un acte de charité, le délivrer de cette possession. Rappelons-nous que l'exorcisme n'est pas d'abord une affaire extraordinaire de lutte contre des pouvoirs préternaturels extraordinaires, mais d'abord un acte de charité par rapport à quelqu'un qui souffre terriblement de cette possession dans laquelle il s'est projeté. Et quelqu'un me disait, une fois qu'il avait pratiqué sous l'égide de l'évêque, qu'il avait nommé donc l'exorciste du diocèse, des exorcismes, et il me disait, il faut toujours revenir à l'origine. D'où les mots très forts, vous voyez, père du mensonge, pécheur dès l'origine, il faut revenir à l'origine. Comment ça s'est passé? Et souvent, il y a des transmissions de pseudo-dons qui sont faits de père en fils, mais dans lequel il y a une formule. Et quelle est cette formule? Il faut aller jusqu'à la formule pour redécouvrir le lien tout à coup qui peut y avoir avec les forces obscures. Et quand on a découvert le lien, ben c'est gagné, parce que la personne peut résilier
casser ce lien,
et la prière vient aider. C'est une prière, je dirais, multiple et variée, dont parle d'ailleurs le catéchisme un peu après, au numéro 550. Il y a les prières imprécatoires, où vraiment on s'adresse à Satan, on lui dit de s'en aller, arrière Satan, comme a dit Jésus au désert, ou déprécatoires, on invoque Dieu pour que la personne soit libérée. Dieu règne du haut du bois de la croix. Et je me souviens, un évêque me disait que lors d'exorcisme, l'exorcisme était gagné quand il arrivait à obtenir de celui qui était donc exorcisé, à lui faire dire que Jésus-Christ était le plus fort. Et il posait toujours cette question au cours des exorcismes, mais qui est le plus fort ? Et si la personne arrivait à dire « c'est Jésus-Christ », c'était gagné.
C'était gagné.
C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il fallait que la personne se ressaisisse de l'arme de notre salut, de la croix en particulier, la croix de Jésus. Et à ce moment-là, il y avait un éloignement du mal, et il fallait bien sûr continuer à entretenir pendant quelque temps une prière pour éviter un retour des forces obscures. Nous savons que Jésus nous a avertis qu'une fois qu'on avait chassé un démon, il pouvait revenir avec 7 plus forts dans l'évangile de Marc. Et il faut être prudent dans les suites d'un exorcisme, que la personne reste bien entourée de prières et qu'elle-même prie pour éviter de retomber dans un état encore pire. Et donc il y a une lutte spirituelle tout à fait réelle de l'exorcisme qui n'est pas du tout une chose inventée pour, je dirais, une sorte d'expression, vous voyez, purement spectaculaire. Le spectaculaire attire les gens, c'est vrai. Et quand vous avez des films sur l'exorcisme ou des choses comme ça, c'est souvent le spectaculaire que les gens vont voir. Mais ils ne voient pas du tout l'enjeu des âmes et l'enjeu du combat contre ce père du mensonge, celui qui est pécheur dès l'origine, celui qui veut nous conduire à nous éloigner de Dieu, et alors que l'exorcisme, cet acte de charité, ramène les personnes qui sont ainsi éloignées.
Une question qui, dans ta formule, celui qui nous conduit à nous éloigner de Dieu, une question peut interroger quand même, parfois. On va se retrouver avec cette idée que tout péché, ce serait le Satan qui veut nous éloigner de Dieu. Et comme s'il y avait une sorte de rejet de responsabilité.
Oui, alors ça,
c'est peut-être qui pose un problème quand
qui
même.
Qui pose un problème, tout à fait. Il ne faut pas dire que c'est Satan qui est l'auteur de tous nos péchés, ce serait trop facile. Il y aurait effectivement Satan induit en tentation, comme on dit bien la formule du Notre Père, ne nous induit pas en tentation. Il veut nous faire rejeter Dieu comme lui-même a rejeté. C'est un pouvoir d'imitation, et par le fait du mensonge en particulier, dans lequel il veut nous laisser adhérer plutôt que à la vérité. Mais c'est vrai qu'en définitive, l'homme est toujours libre, et c'est pour ça que l'exorcisme met en valeur cette liberté de pouvoir revenir sur un acte antécédent, le rejeter, casser le lien par notre liberté et par la puissance de la grâce qui l'accompagne, bien sûr, pas seulement par nos propres forces, mais par la puissance de la grâce qui délivre. Mais c'est vrai qu'en définitive, il faut faire attention de ne pas dire Satan, Satan, là où il n'y a que de l'aumerie. Hein. C'est ce que disait une fois Thérèse d'Avila, avec humour, ne dites pas Satan, Satan, alors qu'il s'agit seulement de l'homme hein, qui pêche. Et un jour, un grand philosophe en Ardèche, Gustave Thibon, m'avouait qu'il croyait au démon, mais qu'il ne l'avait jamais rencontré, et que cela, tous les péchés qu'il avait faits, il en assumait l'entière responsabilité. Je trouvais ça très beau.
Oui. La reconnaissance, la reconnaissance de ce qu'on est.
De ce qu'on est, voilà. C'était très, très beau, je trouve, de la part de ce grand homme qui a une plume tout à fait extraordinaire.
Ah, c'est extraordinaire. Tu l'as connu ?
Oui, je l'ai connu personnellement.
Ah, ouais. Eh ben, nous allons nous arrêter d'ailleurs sur ça. On pourra inviter les auditeurs du reste à aller voir du côté de Gustave Thibon. Il y a de très belles choses, de très belles formules.
De très belles choses et qui met bien en valeur cette tension qu'il y a dans l'homme entre le bien et le mal. Merci.